RFI.
Merci d'écouter RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une, la province du Tanganyika, en République démocratique du Congo, et des interrogations sur des violences ces derniers jours. Le président de l'Assemblée nationale a évoqué en fin de semaine dernière la mort de plus de 300 personnes, un chiffre qui pourrait plutôt correspondre à un bilan sur plusieurs années, répond ce matin le gouverneur de la province. Dans ce journal également, les inquiétudes liées à de possibles nouvelles restrictions de voyage aux États-Unis pour de nombreux ressortissants africains. L'Afrique du Sud qui obtient un financement de plus de 2 milliards de dollars de la part de la Banque mondiale pour sa transition énergétique. Et puis notre dossier ce matin au Sénégal, où la baie d'Ngor à Dakar intègre le club des plus belles baies du monde, un moyen de booster le tourisme et de changer l'image de la ville. Et y a-t-il eu une erreur sur les chiffres en République démocratique du Congo ? À propos de violences dans le territoire de Moba, dans la province du Tanganyika, dans la nuit de samedi à dimanche. Avant-hier, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a évoqué la mort de 318 personnes, un chiffre que conteste le gouverneur de la province, Christian Kitungwa. Il reconnaît que des miliciens sont bien actifs dans la zone, que des discussions sont même en cours, mais pour le gouverneur, le nombre annoncé par le président de l'Assemblée correspondrait plutôt à un bilan sur plusieurs années.
Dire que dans le Tanganyika, dans le territoire de Moba ou dans le chefferie de Kansabala où évoluent ces milices et qu'il y a eu mort de plus de 300 personnes que l'on dise sur la période 2020 à 2025, je pourrais encore comprendre et cela reste l'exercice qui porte à regarder dans nos rétroviseurs. Depuis mon arrivée, nous avons entamé le pourparler avec ce milice. J'ai eu à rencontrer la haute autorité pour avoir sa bénédiction. À ce stade, je vous dis, ce groupe armé n'attend que notre déplacement pour leur reddition. Ils sont prêts à déposer leurs armes. Le groupe qui se situe au niveau de Moba dans le chefferie Kansabala sont déjà pris en charge pour procéder à la reddition comme on l'a fait avec les autres milices.
Christian Kitungwa, le gouverneur en RDC de la province du Tanganyika. Les questions de sécurité qui sont désormais entre les mains au plus haut sommet de l'État à Kinshasa du Conseil national de sécurité. Les autorités congolaises souhaitent une grande réforme sur ce domaine pour un processus qui se fait main dans la main avec la MONUSCO, la force de l'ONU, deux partenaires en pleine période de consultation avec par exemple les corps diplomatiques ou bien les autres agences de l'État à Kinshasa. Pauline Azidi.
Dans la salle de l'immeuble du gouvernement, on retrouve des représentants des principaux ministères, des agences de l'État et plusieurs ambassadeurs. L'objectif est d'inaugurer, selon les termes du conseiller spécial du chef de l'État, une série d'échanges autour de la réforme du secteur de la sécurité, une mission pour laquelle les partenaires auront un rôle à jouer, précise Désiré Cachemire et Bérande.
La mission de ce groupe consultatif consiste à faire des conseils, des suggestions, à apporter des appuis aussi bien techniques, financiers que logistiques. Chaque partenaire sera en mesure de pouvoir délimiter sa part de soutien afin que la réforme du secteur de sécurité soit de plus en plus une réalité vivante et efficace en RDC.
À ses côtés, il y a la chef de la MONUSCO, tout juste de retour d'un déplacement à Goma, dans l'est du pays. Bintou Keïta salue la démarche des autorités qui s'inscrit pour elle dans un contexte favorable.
Notre rencontre aujourd'hui intervient à un moment où les efforts de paix multiples sont en cours. La déclaration de principe signée à Washington entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la médiation togolaise, offre des perspectives encourageantes. Ce contexte favorable nous invite donc à une réflexion approfondie sur l'état actuel de la réforme du secteur de la sécurité en RDC, ses progrès, ses défis, mais aussi ses opportunités.
Les échanges doivent désormais se poursuivre de manière régulière. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
RFI, 7h34 à N'Djamena et à Abéché, au Tchad, où l'on signale des violences. C'est en fait un collectif d'élus de la région du Wadaï dans l'est du pays qui signale des violences intercommunautaires lors de la semaine qui vient de s'écouler. Des élus qui évoquent une vingtaine de morts et 16 blessés, parlant d'actes odieux et appelant les autorités, je cite, à multiplier les efforts pour assurer la sécurité des citoyens. 40 ans après, l'espoir d'obtenir justice au Zimbabwe, où les autorités d'Harare Assemblée viennent d'annoncer que la semaine prochaine, des auditions débuteront à propos des massacres dits de Gukurahundi. Entre 1983 et 1987, quand des milliers de civils ont été tués par l'armée du président Robert Mugabe lors d'une campagne de répression de l'opposition. Alexandra Branjon.
Début des années 80, le pays vient d'acquérir son indépendance. Robert Mugabe est président. Il fait face à une forte opposition, notamment dans l'ouest du pays, au cœur de la minorité Ndebele. Une unité militaire d'élite est déployée pour réprimer les opposants et va se solder en massacre. Selon l'Église catholique, environ 20 000 personnes ont été tuées entre 1983 et 87. Mais Robert Mugabe n'a jamais reconnu sa responsabilité. Il n'y a jamais eu de procès ni de réparation pour les victimes et leurs familles. Une blessure toujours ouverte. En arrivant au pouvoir, le président Mnangagwa a promis un processus de réconciliation et a mis sur pied des groupes de chefs traditionnels locaux chargés d'enquêter. Les audiences tant attendues débuteront le 26 juin. Les survivants seront interrogés. Un rapport sera ensuite remis au président et une indemnisation financière envisagée. Mais pour ses détracteurs, ce processus démarre mal, sans excuse officielle du gouvernement. D'autant plus que le président Mnangagwa, mis en cause dans ces massacres en tant que ministre de la Sécurité de l'époque, a lui aussi toujours nié toute responsabilité.
Alexandra Branjon. Au Kenya, le numéro 2 de la police se met en retrait de ses fonctions. Eliud Lagat, mis en cause dans l'enquête sur la mort en détention au début du mois d'un jeune homme qu'il avait critiqué sur Internet. Insuffisant pour la Commission kenyane des droits humains qui estime qu'Eliud Lagat est le principal suspect et devrait quitter définitivement son poste, être arrêté et poursuivi. Alors que l'enquête continue et que les autorités kenyanes promettent d'équiper tous les commissariats de police de caméras de surveillance d'ici 2 ans. À l'actualité en Afrique du Sud, où les autorités comptent désormais 90 morts dans la province du Cap-Oriental après les inondations de la semaine dernière, des opérations de secours étaient encore en cours hier. Pretoria, par ailleurs, qui vient de finaliser avec la Banque mondiale un accord à hauteur de 2,6 milliards de dollars pour financer sa transition énergétique, un domaine dans lequel l'Afrique du Sud a pris du retard sur ses objectifs. Et l'accord avec la Banque mondiale doit se concrétiser avec un premier versement de 500 millions. Alexis Bédu.
C'est un soutien financier de poids, mais qui était en péril depuis de nombreux mois. Déjà, ce plan de financement a été reporté en septembre dernier. L'Afrique du Sud, en pleine crise énergétique, annonce alors qu'elle décale la fermeture de 3 centrales à charbon. Entre-temps, Donald Trump est élu et les États-Unis retirent leur financement de ce fonds d'investissement climatique. Des 15 contributeurs de 12,5 milliards de dollars, les États-Unis étaient le plus important. D'autant que Washington s'est aussi retiré des plans soutenus par les pays riches pour aider l'Afrique du Sud à se décarboné, faisant perdre au pays 1 milliard de dollars en prêts. Donc la validation de ce fonds pouvant financer les projets de décarbonation jusqu'à 2,5 milliards de dollars est un soulagement pour Pretoria. Toutes les centrales à charbon doivent être mises hors service d'ici à 2042 et la compagnie publique Eskom explique être en retard sur son calendrier dans un pays qui dépend du charbon pour environ 80% de sa production d'électricité.
Alexis Bédu. Dans l'actualité des pays africains, ce matin également, le Togo qui décide de suspendre pour 3 mois RFI et la chaîne de télévision France 24. En cause, d'après les autorités, la couverture de manifestations contre le pouvoir au début du mois. Ce matin, les deux chaînes disent leur surprise, mais aussi leur volonté de dialoguer avec la haute autorité de l'audiovisuel à Lomé. Aux États-Unis, le département d'État refuse de commenter directement, mais indique réévaluer constamment sa politique afin de garantir la sécurité des Américains et de veiller à ce que les étrangers respectent les lois américaines. La diplomatie de Washington, interrogée sur de possibles nouvelles restrictions de voyage pour les ressortissants de 36 pays, dont 25 africains, nous vous en parlions hier. Une information en tout cas qui inquiète ceux qui ont l'habitude de voyager outre-Atlantique ou qui envisagent d'aller par exemple y étudier. Illustration au Sénégal, l'un des pays concernés avec Juliette Dubois.
Beaucoup d'entrepreneurs comme Boubacar Djiba, qui travaille dans l'IA et les industries culturelles, ont tissé des liens durables avec les États-Unis.
Les États-Unis, ça fait partie des pays pour nous, en tant que start-up, qu'on doit visiter. Ça nous permet aussi de tâter le terrain, de rencontrer des business angels ou bien des investisseurs. Ça va vraiment enfreindre un tout petit peu cet élan.
Moussa Thiam, lui, est doctorant en médecine à Dakar. Il revient tout juste de plusieurs mois passés à Chicago et prévoit d'y poursuivre des études en santé publique et épidémiologie. Pour lui, si le Sénégal venait à figurer sur une liste noire, ce serait l'anéantissement de plusieurs années d'efforts.
En fait, ce serait un frein et ce serait encore un problème, c'est de repartir à zéro. Parce qu'on a vraiment travaillé pour l'obtention du visa, on a essayé de trouver un partenariat avec l'université de Notre-Dame de Chicago.
Il a entendu parler de cette menace et ne comprend pas.
Nous, ça nous interpelle un peu, on se dit que quelle peut être la raison de cette réflexion. Parce qu'au niveau du Sénégal, qui est réputé être un pays de paix, un pays de stabilité, on n'a jamais peut-être entendu un problème ou bien soit des assassinats ou des attentats qui sont entraînés par nos compatriotes sénégalais.
Selon les informations du Washington Post, l'administration américaine estime que les pays concernés souffrent de problèmes de documents d'identité fiables, fraude gouvernementale ou encore de dépassement de durée des visas de leurs citoyens. Les pays ont jusqu'à mercredi pour fournir un plan d'action initial. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Le Sénégal, où l'on reste ce matin pour notre dossier. Le Sénégal salué par le club des plus belles baies du monde, une organisation qui distingue une quarantaine de sites remarquables à travers la planète, une dizaine sur le continent, et donc désormais deux au Sénégal. La baie de Siné Saloum et maintenant également celle de Ngor à Dakar qui vient de rejoindre ce club. Mérite-t-elle son inscription ? Reportage de Gwendal Lavina.
La baie de Ngor est comme une oasis à Dakar. Ici, le bruit incessant des klaxons de voitures est remplacé par celui des vagues et le stress semble s'évaporer dès que l'on commence à marcher sur le sable sous les palmiers. Awa Diop vient régulièrement avec ses deux enfants profiter de la plage de la baie qui est maintenant l'une des plus belles du monde.
Je trouve que c'est mérité parce que je le trouve merveilleux. Quand je viens ici, j'oublie mes soucis. C'est la détente, quoi, aussi.
Un peu plus loin, Mustapha prépare le déjeuner dans sa paillote restaurant. Il est né et a toujours vécu à Ngor.
Quand tu vis ça, tu vas aimer. Parce que la baie de Ngor est incroyable, quoi. À chaque fois où on se lève, on se rend devant l'eau, quoi, pour regarder l'île de Ngor. Tu vois, l'été, il y a beaucoup de soleil. Mais nous, on peut se rendre dans la mer, se baigner, pêcher des poissons, griller des poissons au bord de la mer, ça, c'est beau.
La beauté des paysages, Moulay Diop, qui vend des tickets pour la traversée en pirogue vers l'île juste en face, ne sent pas.
C'est bien, c'est calme, la mer elle est calme. Les Sénégalais en général, c'est pas des bons nageurs. Et là, tu peux nager, il n'y a pas de problème. L'île elle est bien, on mange bien, on visite bien, c'est correct.
Ça ressemble un petit peu à un petit paradis sur terre, ce qui s'en rapproche.
S'il vous plaît, oui, voilà, je voulais pas dire, mais voilà le mot. Voilà le mot.
Une parenthèse enchantée que les Ngorois assurent vouloir partager avec tous les visiteurs. Et ça serait dommage de s'en priver. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Et le tourisme, c'est bien le but de ce label des plus belles baies du monde. Et pour Ndeye Maguette Mbaye, conseillère municipale de Ngor, il s'agit aussi, d'un point de vue plus politique, de changer l'image de la ville.
Sous notre magistère, on s'est fixé comme principal objectif de redorer le blason de Ngor et de le repositionner sur le plan national et international. Déjà, il y a quelques années, je peux dire, les clichés étaient très négatifs. Qui dit Ngor dit les mauvaises fréquentations, les boîtes de nuit, la débauche. Maintenant, il fallait renverser la tendance, donc raison pour laquelle on a intégré ce club. Les gens auront un nouveau regard sur Ngor, auront une nouvelle perception. Ça va nous offrir beaucoup d'opportunités, notamment touristiques, économique, environnemental, mais diplomatique. C'est une fierté parce que le Sénégal a 700 km de côte, on a pas mal de baies, mais nous avons réussi à intégrer un club très restreint. Donc c'est une prouesse déjà. Donc on a bataillé pour en arriver là et j'espère que chacun y mettra du sien vraiment pour préserver cette reconnaissance internationale.
Ndeye Maguette Mbaye, conseillère municipale de Ngor au Sénégal, à Dakar. Et puis un mot de sport avant de retrouver Andréane Mellard. Le sport ce matin, c'est du football, le mondial des clubs et l'entrée en lice de l'Espérance Tunis qui a commencé par une défaite cette nuit 2-0 contre les Brésiliens de Flamengo. Cette nuit, ce seront les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud qui joueront leur premier match contre les Sud-Coréens d'Ulsan. Il est 7h44 à Kinshasa.